Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par le prélèvement d'organes. On parle volontiers de don d'organes plutôt que de prélèvement, peut-être parce que la notion de don renvoie immédiatement à une relation symbolique entre le donneur et le receveur. En effet, le geste technique du prélèvement est toujours fait à dessein. On prélève en vue d'une greffe, en vue d'un patient qui attend l'organe. En fonction des organes, le prélèvement peut concerner la personne vivante ou le défunt. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la situation du donneur décédé. Cette situation questionne notre manière de penser la vie et la mort. Plus profondément encore, cette pratique du prélèvement pose la question d'un devenir qui paraît tabou. Le devenir de son propre corps en tant que cadavre. Lorsque je me demande à moi-même si je souhaite être donneur d'organes, je m'imagine ma mort et je suis en situation de réfléchir en fonction de mes valeurs et de mes volontés. Mais peu de personnes se prononcent de leur vivant à propos du prélèvement d'organes et il est parfois difficile pour les soignants de poser cette question aux proches du défunt. Dans un moment où l'acceptation du décès en est à ses balbutiements, les soignants n'ont pas d'autre choix que de demander si le défunt aurait été favorable au prélèvement. Le prélèvement d'organes soulève des questions complexes qui touchent à des enjeux éthiques fondamentaux parce que cette pratique questionne notre conception du corps, notre propre corps, le corps des autres, et le lien qu'il y a entre eux. Il s'agit donc à la fois d'une question personnelle qui concerne la relation que nous avons avec l'idée de notre propre mort, et d'un autre côté, il s'agit d'une manière de penser notre relation avec la communauté humaine. À quoi sommes-nous prêts pour l'humanité ? Sommes-nous capables de dépasser la limite de l'individu pour le bien de la communauté ? Est-ce que mon corps, après mon décès, appartiendrait finalement à la communauté humaine ? Est-ce que la vie de mes organes contient déjà de mon vivant un lien intime avec le corps des autres ? Cette vie des organes, qui pourrait continuer dans le corps des autres, appartient-elle en fait à l'humanité plutôt qu'à moi seul ? Le prélèvement est une pratique qui questionne l'individu, son regard sur sa propre existence, mais à travers la perception individuelle, cette pratique oblige aussi à penser notre place dans la société humaine, à nous situer dans cette communauté pas seulement à partir de notre esprit, mais aussi à partir de notre corps. Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Ducot, qui est médecin anesthésiste réanimateur et coordinateur du prélèvement d'organes et de tissus au Centre hospitalier universitaire de Toulouse. Marie-André, qui est infirmière à la coordination du prélèvement d'organes et de tissus du CHU de Toulouse. Et Xavier Bioy, qui est professeur de droit public à l'Université Capitole et qui est spécialiste de bioéthique. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Pour commencer, j'aurais une question très générale qui s'adresse à vous, Xavier, pour préciser le cadre légal de la pratique du prélèvement. Donc, dans quel contexte légal s'inscrit cette pratique du prélèvement d'organes et de tissus ?
Elle s'inscrit dans un contexte qui est relativement ancien, puisqu'on se réfère principalement à la loi dite Caillavé de 1976, qui est la première à échéance assez lointaine par rapport aux premières greffes de cornée qui avaient eu lieu après-guerre, hein, qui est quand même la première loi à avoir encadré et à avoir posé ce fameux principe de présomption de consentement, qui a, dès ce moment-là, provoqué de nombreux débats chez les juristes et dans la société, puisque par ailleurs, dans la loi, le principe est celui d'un consentement à tout élément, tout prélèvement du corps humain, à toute atteinte à l'intégrité physique. Donc c'est une véritable exception. Et ensuite, cette loi a posé les grands principes qui guident encore la loi de bioéthique dans son ensemble, à savoir le principe de gratuité du don, le principe d'anonymat du don, le principe d'équité aussi dans la répartition des greffons et des éléments du corps humain, la possibilité aussi de pouvoir avoir une conception de ce don qui est un soin, et donc qui est pris en charge aussi par la Sécurité sociale.
Oui.
La finalité du don aussi, toujours à visée thérapeutique ou scientifique, à l'exclusion donc de tout usage commercial ou industriel auquel on pourrait penser. Donc voilà, ces grands principes ont été posés dès 76 et repris en 94 dans les lois, la première loi de bioéthique, qui encadre toujours, même s'il y a eu de nombreuses modifications depuis, qui encadre toujours cette pratique et qui a été fondée finalement sur le modèle du don du sang au départ, qui est encore plus ancien et qui était moins régulé, qu'il était de façon réglementaire et par voie de circulaire. Et donc c'est ce modèle plus ancien qui a été encore repris dans ce cadre légal. Il faut bien comprendre que la question de l'organe est une question spécifique à l'intérieur de l'ensemble des prélèvements effectués sur le corps humain, puisqu'on parle effectivement de sang, de gamètes, d'organes, de tissus, de cellules, parfois avec des visées génétiques, c'est pour des prélèvements d'ADN. Et puis pour le juriste, il y a toujours la case à côté, qui est la question des prélèvements judiciaires, dans le cadre des enquêtes, qui a servi non pas pour les médecins, mais pour les juristes, un petit peu de creuser à la réflexion, puisqu'on avait déjà des prélèvements à visée de preuve. Et ça a quand même toujours une influence un peu derrière dans la façon dont les juristes abordent la question.
Est-ce qu'il y a des particularités dans ce cadre légal français par rapport aux autres pays ?
Il y a toute une législation européenne sur le prélèvement et la circulation des organes dans le cadre européen. Donc il y a une directive qui aujourd'hui a été remplacée par un règlement qui s'appelle SO, qui est le règlement sur les substances d'origine humaine.
Ah d'accord.
Il y a quelques mois, il date d'avril 2024 et qui régit aujourd'hui l'ensemble des circulations et des prélèvements en ayant aussi banalisé pour le coup la question de l'organe dans l'ensemble de ces éléments dont la vocation est de circuler un maximum, pas seulement à visée thérapeutique, mais beaucoup à visée de recherche dans le cadre SO. C'est vraiment pour fournir une forme de matière première à la recherche scientifique européenne.
En fait, lorsqu'on parle du prélèvement du défunt, on ne parle pas de tous les décès. Et donc, en fonction de leur état de santé ou en fonction de ce qui a causé la mort des personnes, tous les défunts ne peuvent pas être donneurs d'organes. Est-ce que, Guillaume, vous pourriez nous préciser quels sont les cas dans lesquels la question du prélèvement peut se poser et donc être abordée ensuite avec une famille ?
L'archétype du donneur d'organes en France, c'est un patient qui est décédé dans une situation qui est un petit peu particulière, qui est ce qu'on appelle l'état de mort encéphalique. La loi définit la mort par ou l'abolition de la fonction cérébrale et l'abolition de la circulation, de la fonction hémodynamique, ou alors par l'abolition prouvée et irréversible des fonctions cérébrales. Mmh. Donc, il est possible d'être décédé aux yeux de la loi sur une perte de fonction cérébrale, tout en étant assisté des autres organes par une ventilation mécanique avec un cœur battant. C'est
d'accord.
Ce qu'on appelle la mort cérébrale ou la mort encéphalique. Mmh. Ces circonstances de mort sont extrêmement particulières. C'est rare, c'est entre 0,4 et 1% des décès en France.
Ah oui.
Ce sont des décès qui surviennent nécessairement dans un milieu de réanimation, où les autres fonctions d'organes sont assistées par des thérapeutiques. Et c'est dans ce cadre-là, c'est ce cadre qui est l'archétype de la possibilité de don d'organes. Le cerveau est détruit, mais les autres organes continuent à fonctionner pendant un temps qui est restreint. Et donc ce temps est mis à profit par les équipes de réanimation et de coordination hospitalière de prélèvement d'organes et de tissus pour entrer dans une démarche de don d'organes avec un abord du don auprès des proches pour connaître la position du donneur.
Donc il y a la mort encéphalique, mort cérébrale, et il n'y a pas d'autres
Alors, il peut y avoir d'autres... Depuis 2014, en France, on peut proposer des prélèvements chez des patients qui sont décédés à cœur arrêté, c'est-à-dire décédés dans un contexte hémodynamique d'arrêt cardiaque, nécessitant des mesures de réanimation post-mortem à visée exclusive de don d'organes. C'est ce qu'on appelle la catégorie des donneurs décédés après arrêt circulatoire. En fonction de la survenue de l'arrêt circulatoire ou prévu en réanimation chez des patients qui malheureusement n'ont plus d'espoir thérapeutique et vont bénéficier d'une décision d'arrêt de traitement. C'est le cas le plus fréquent en France. Il reste encore en France, c'est ce qu'on appelle la catégorie de donneurs décédés après arrêt circulatoire, la catégorie 3 de Maastricht. C'est un peu compliqué à dire comme ça, mais la catégorie de Maastricht sert à classifier les modes de survenue des arrêts cardiaques. Donc la catégorie 3 de Maastricht est un arrêt cardiaque qui est survenu dans une sphère contrôlée, donc chez des patients qui sont déjà hospitalisés en réanimation. On a fait en France des prélèvements dans la catégorie 2 de Maastricht, c'est-à-dire des arrêts cardiaques qui surviennent de manière incontrôlée, en dehors de l'hôpital, donc de manière inopinée. Cette catégorie de prélèvements est en cours d'arrêt en France. Il n'y a plus qu'un centre aujourd'hui à l'échelle nationale qui continue à pratiquer ce type de prélèvement.
Juste pour bien comprendre, lorsque vous parlez d'arrêt de la circulation, c'est quoi ?
C'est un arrêt cardiaque.
D'accord.
Tout simplement.
Okay.
C'est un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque entraîne l'arrêt de la perfusion de tous les organes et donc l'arrêt de la perfusion du cerveau. Mmh. La mort par arrêt cardiaque est compatible avec une mort cérébrale. En l'absence de circulation sanguine systémique dans tout le corps, il n'y a plus de circulation cérébrale et donc il n'y a plus de fonction cérébrale.
D'accord.
Peut-être apporter une précision sur la vision juridique de la mort, parce que le juge a été confronté à cette difficulté d'avoir deux définitions finalement de la mort. L'arrêt cardio-respiratoire d'un côté, qui est la mort de monsieur, madame, tout le monde, et puis la mort cérébrale, qui est la mort qui était nécessaire pour penser justement à la législation sur le don d'organes. Et en 1993, alors que la loi n'était pas encore totalement fixée, le Conseil d'État a été confronté à un cas célèbre que tous nos étudiants connaissent, qui est l'affaire du docteur Milo, où voulant expérimenter sur un jeune homme qu'on venait de lui amener en état de mort cérébrale après un accident de la route, il a procédé à une expérimentation sans consentement, sans aucun cadre, parce qu'il souhaitait innocenter un de ses confrères médecins accusé dans un autre procès d'avoir tué son patient en lui injectant un certain produit. Donc il a voulu injecter ce même produit sur ce jeune homme, et il l'a fait d'ailleurs en se filmant et a rapporté la preuve au procès. Et c'est là qu'on lui a dit, mais comment avez-vous obtenu ces preuves et qu'est-ce qui vous a permis de faire une expérimentation sur le cadavre? Et il a dit, il n'est rien prévu par la loi, je suis tout à fait libre de pouvoir le faire. Alors on lui a opposé le code de déontologie qui parlait du respect du patient tout au long de la vie. Mmh. Et il disait, mais moi il est mort mon patient, donc le code de déontologie ne s'appliquait plus. Mmh. Et c'est le moment où le Conseil d'État a posé le principe qui allait être légiféré un an et demi plus tard dans la loi de bioéthique, qui consiste à considérer qu'il y a une dignité du cadavre, qu'il y a une dignité du mort, et que l'on ne peut pas donc procéder sans cadre légal à une quelconque intervention sur ce corps. Et donc le Conseil d'État en a profité pour retenir le critère de la mort cérébrale comme critère de droit commun, hors cadre de la législation sur le prélèvement d'organes.
Je profite pour rebondir aussi et placer un cadre qui me semble primordial dès maintenant. C'est que la médecine du don d'organes est une médecine d'accompagnement du mourant, du patient décédé, dans la dignité. Et ça renvoie exactement à ce point de vue légal. C'est-à-dire que la personne morte n'est pas un réservoir d'organes, n'est pas une potentialité pour la société. Notre travail, c'est d'abord et avant tout d'assurer la dignité, la fin de vie de ces patients-là, en les accompagnant dans une démarche potentielle qui peut être une démarche de don.
Je reviens sur les éléments que vous donniez tout à l'heure pour expliquer quelles sont les différentes manières de décéder qui correspondent finalement à la possibilité du prélèvement. Dans vos réponses, j'ai l'impression que finalement tout se passe à l'hôpital, dans le cadre hospitalier.
Il y a une obligation légale de recensement pour toutes les structures de soins qui disposent de soins critiques, donc de réanimation ou de services de soins continus. Il y a une obligation d'appartenir à un réseau de recensement et de prise en charge des patients donneurs d'organes potentiels. Donc tout est à l'hôpital, dans la mesure où, dans le cadre de la mort encéphalique, comme on le disait, il y faut nécessairement une suppléance des organes vitaux, et notamment une suppléance ventilatoire. Sinon, la mort encéphalique s'accompagne d'un arrêt cardiaque dans les minutes qui suivent.
En fait, le Code de la Santé prévoit un régime d'autorisation qui vient de l'Agence de la biomédecine, qui autorise certains services uniquement à pouvoir pratiquer des dons, des prélèvements.
D'accord.
Tous les services ont l'obligation de recensement. Ensuite, certains services ont l'autorisation de prélèvement.
D'accord.
Toutes ces entités sont reliées entre elles par des réseaux de coopération. Réseaux de coopération entre centres autorisés au prélèvement. Chaque centre autorisé au prélèvement a autour de lui un réseau de centres non autorisés au prélèvement, qui lui réfèrent les patients potentiels.
D'accord. Les patients, par exemple, qui décéderaient dans une clinique.
Exactement.
Ouais.
Privé. Exactement.
Ok, d'accord, je comprends. Et donc là, j'ai une question qui s'adresse peut-être plutôt à Marie. Lorsque les conditions sont réunies, donc on voit que c'est pas toujours le cas, hein, lorsque les conditions sont réunies pour le prélèvement, qu'est-ce qui peut être prélevé? Puisqu'on parle d'organes et de tissus, donc de quels organes et de quels tissus s'agit-il?
Au niveau des organes, il est possible de donner donc, le cœur, le poumon, au niveau thoracique, au niveau abdominal, c'est le foie, les reins et le pancréas. Et au niveau des tissus, qui est un petit peu moins connu, donc il y a la possibilité de faire don de ses cornées. Mmh. Donc c'est la lentille transparente qui est située au niveau de l'œil, qui permet de redonner la vue. Il est possible de donner les vaisseaux. Donc ça, c'est souvent utilisé sur des pontages, des infections en fait, qu'il y avait sur des pontages. Il est possible de donner ses os. Les os, c'est en vue de chirurgie suite à un grave accident ou les enfants qui sont atteints de cancer.
D'accord.
Et il est possible de donner la peau. Donc c'est la greffe de l'épiderme qui permet sur les brûlures graves, les brûlures sévères.
Il y a aussi des prélèvements à visée scientifique ?
Il est possible aussi de faire des prélèvements, oui, pour la recherche médicale. C'est des recherches avec lesquelles on est associé. Voilà, on sait exactement quel est le but de leur étude. Et après, on en parle aux familles en général de manière globale et on rentre vraiment dans les détails selon le questionnement de la famille. Et des proches.
Il est important de dire que les prélèvements à visée scientifique se font toujours sur des organes et des tissus qui ne sont pas utilisables à visée thérapeutique.
Ah oui, oui.
Voilà. C'est la priorité dans le prélèvement d'organes et de tissus est toujours au thérapeutique. Et ensuite, on peut se projeter vers du scientifique pour les organes et les tissus qui ne sont pas qualifiés à visée thérapeutique.
Et on n'aborde pas la recherche médicale lorsqu'il y a un obstacle médico-légal. Voilà.
Donc là, on voit les possibilités. Est-ce que la famille du défunt peut accepter certains prélèvements et pas d'autres ? Parce que tout à l'heure, Xavier, vous précisiez que finalement, c'était un accord général, non ? C'est ça, selon le droit ?
Alors si on revient sur la question de la présomption de consentement, effectivement, le prélèvement, d'après la loi, peut avoir lieu, sauf si la personne s'est opposée par un refus qui a été manifesté et dont on peut témoigner. Donc la famille ne sera consultée qu'à titre de témoin de ce qu'aurait été la volonté de la personne décédée si elle ne s'est pas fait connaître de son vivant sur un registre tenu par l'Agence de la biomédecine. Mmh. Et donc dans ce cadre-là, c'est simplement un témoignage de ce qu'aurait voulu le défunt. Et si la famille pense que le défunt n'aurait pas souhaité le prélèvement de tel ou tel organe, comme lui-même de son vivant, il peut s'opposer au prélèvement de tel ou tel organe.
Ah, d'accord.
Et accepter d'autres, la famille peut effectivement en témoigner à ce moment-là.
Et vous, c'est une situation que vous connaissez, parce que vous, vous rencontrez Marie et les familles, donc...
Donc c'est une situation auquel on peut être confronté régulièrement aux entretiens. C'est vrai que les familles peuvent nous rapporter par la symbolique de l'organe ou du tissu qu'ils ne souhaitent pas qu'on touche à l'enveloppe corporelle, par exemple, par rapport au tissu.
Oui.
Nous, on se porte garante, on leur explique qu'il est possible qu'ils émettent des restrictions si c'est trop difficile pour eux. Mmh. Et nous, on se porte de garante de ce respect.
D'accord.
Le registre national des refus prévoit la restriction partielle. C'est-à-dire qu'on peut se prononcer de son vivant sur la restriction de tel ou tel organe ou tissu, sans pour autant restreindre la totalité du don.
D'accord, donc c'est pas oui-non.
Non, c'est pas oui-non.
Ouais, ouais. Il y a des catégories possibles ou des précisions qu'on peut apporter.
Et notamment, on peut refuser le prélèvement à visée scientifique pour n'autoriser que le prélèvement à visée thérapeutique, par exemple.
Le déroulement, finalement, de l'entretien avec les familles, en fait, je suppose qu'il y a d'abord une annonce du décès qui se fait par le médecin qui a accompagné la personne. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Alors souvent, nous, on est là au premier entretien où il y a l'annonce de décès qui est faite par le médecin. On est là pour déjà avoir une première rencontre avec les proches, mais on n'intervient pas lors de ce premier entretien.
Là, vous êtes là, par exemple, médecin paramédical ou que vous, en tant qu'infirmière ?
Je suis là en tant qu'infirmière, oui.
Il y a l'équipe de réanimation, le médecin et l'infirmier de réanimation, auquel on a décidé d'adjoindre l'infirmier ou l'infirmière de coordination dès cet entretien-là, dans l'idée de, comme le dit Marie, de faire connaissance avec cette famille et de pouvoir assurer un lien, une relation. On est dans une médecine de la relation, très clairement. Et donc, cette relation, elle commence pour nous en tout cas, dès l'annonce de la mort. Il faut voir que je suis aussi réanimateur, la relation, elle a commencé en amont entre l'équipe de réanimation et cette famille. Souvent, dès l'accueil, il y a déjà une annonce de gravité. Dans la plupart des cas, on l'a vu, ce sont des patients qui ont des lésions neurologiques, primaires ou secondaires, mais en tout cas, l'organe qui est atteint, c'est le cerveau. Et si vous voulez, le déroulé habituel, c'est d'abord une annonce de gravité initiale, une annonce d'aggravation neurologique, c'est-à-dire les choses vont moins bien. Et cette annonce d'aggravation neurologique débouche malheureusement sur une annonce de mort. La coordination des prélèvements d'organes commence à intervenir par sa présence, juste au moment de l'annonce de mort, avant de prendre la main.
Ma question vient du fait qu'il me semble que dans la coordination du prélèvement, les infirmières ont une place particulière. C'est-à-dire que c'est surtout elles, non, qui interviennent auprès des familles.
Oui, c'est vrai que l'abord du don, en général, on est quand même en collaboration au début de l'entretien avec le médecin réanimateur. On essaye de faire un temps de... On propose toujours un temps de recueillement après l'annonce de décès pour qu'ils puissent se recueillir auprès de leurs proches. Et on les revoit en deuxième entretien, toujours avec le médecin de réanimation qui va nous présenter et peut-être verbaliser déjà la possibilité du don d'organes et nous passer le relais en fait sur l'abord du don auprès des familles pour répondre aux questions et instaurer un dialogue auprès de ses proches si leurs proches ne s'étaient pas positionnés surtout concernant le don d'organes.
Pour revenir à la question, la place des infirmières est fondamentale dans la dynamique de don. Ce sont plus que les chevilles ouvrières, c'est-à-dire ce sont effectivement elles qui sont là à toutes les étapes du don, que ce soit les étapes techniques, les étapes de coordination, ce qui nomme notre unité, mais d'abord et avant tout, et j'insiste vraiment là-dessus, sur l'accompagnement de ces familles endeuillées, l'accompagnement de ces patients. Comme le disait Marie, elles sont garantes de tout ça, garantes de la dignité de la fin de vie du patient qui va devenir un patient donneur. Donc leur rôle est primordial et la coordination de dons d'organes, ce sont des infirmières. Ce sont des infirmières d'abord et avant tout. Les médecins ont un rôle très satellite là-dedans. Ce sont vraiment elles qui sont en première ligne, qui accompagnent ces familles, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs émotions. Et j'en profite pour les saluer.
Merci beaucoup Marie-André, Xavier Bioy et Guillaume Ducot. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.